Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent, passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Permettons de divaguer un peu au sujet de celui qu'on reçoit aujourd'hui. C'est presque un habitué de notre émission. On l'aime bien et son amitié nous est fidèle. Donc, voici le propos. Le piano est à notre invité ce que le soleil est à la terre, une source essentielle à la vie. Il engendre lui aussi un contact chaleureux en rayonnant sur son public. Généreux et au talent remarquable, c'est à se demander s'il n'y a pas quelque chose de divin qui l'habite. Remarquez que ses premières prestations en public se firent sous l'œil de Dieu, à l'église, à l'époque des messes rythmées. Ajoutons aussi que les religieuses lui donnèrent ses premières leçons de piano. Il ne cessa, au gré du temps, de perfectionner sa technique à tel point qu'aujourd'hui, ce pianiste de grand talent transporte la musique autour du monde. Et son nom rappelle le bon fils d'Adam et Ève. Une étoile qui brille pour notre plus grand plaisir, Richard Abel. Bonjour, Richard.
Bonjour, Armand. Quelle présentation.
Ça vous fait sourire, mais vous êtes presque un fils venu du ciel.
Quasiment.
Avec un nom semblable et avec ce talent qui est le vôtre.
Bien oui, souvent on me demande d'où vient Abel, mais ça vient de Adam et Ève, alors voilà. Mais Armand, vous jonglez avec les mots comme un musicien avec les notes.
C'est bien dit.
Alors si vous trouvez ça agréable de m'entendre, moi je vous dis en retour qu'il est très agréable de vous entendre au micro. Et je tiens à souligner déjà d'emblée que ce ne sont pas tous les animateurs d'aujourd'hui qui ont cette qualité du français et ce respect pour la langue. Alors je suis un peu nerveux devant vous de faire des écarts de langage, mais au moins je vais faire l'effort.
Vous n'avez pas à l'être, d'autant que nous avons un grand privilège que de vous recevoir, parce que je disais en présentation que vous avez un talent remarquable, mais vous avez aussi une qualité exceptionnelle qui est celle de la générosité. Je vous ai vu à deux reprises l'année dernière en spectacle, aussi bien à Montréal qu'à Québec, et je vous le disais privément, ce qui ressort de votre prestation, c'est la sincérité. Vous êtes sincère à l'égard de votre public, vous ne vous donnez pas de rôle, vous vous présentez presque nu au sens de l'âme qui s'expose à son public. Vous en êtes conscient sûrement.
Oui, parce que au fil des années, au fil du temps, parfois on essaie des choses. J'ai essayé d'être pas moi, d'être quelqu'un d'autre que moi, apprendre des textes, essayer de même prendre des accents, d'essayer de... Et je pense que ce qui me convient le mieux, c'est le naturel, lorsque je suis exactement ce que je suis. Alors, j'ai arrêté de vouloir jouer des rôles, et je joue le mien, qui est celui qui aime les gens, qui aime se retrouver sur scène, et qui aime improviser parce que j'ai pas un grand filtre. Et quand je parle, ça vient directement du cœur, et parfois, il y a des écarts de langage, mais au moins, cela a la réputation d'être sincère. Et puis, j'ai opté pour ça dans les dernières années, d'être carrément moi-même.
Et vous partagez ce que vous êtes et ce que vous vivez aussi, parce que votre dernier album s'intitule « Autour du monde ». C'est un peu un carnet de voyage.
Exact. Oui. J'ai visité tellement de pays que j'arrive pas à me souvenir de tous les pays que j'ai visités. J'ai eu la chance parce que la musique instrumentale n'a pas de frontières de langue. Alors, j'ai été invité à jouer.
Ça, c'est un grand avantage.
Ah oui, voilà. C'est un grand désavantage et à la fois un grand avantage. Alors,
pourquoi un désavantage, dites-vous?
Parce que beaucoup de radios ne tournent pas de musique instrumentale parce qu'il n'y a pas de paroles. Par contre, ma musique peut jouer un peu partout dans le monde parce que justement, il n'y a pas de parole.
Elle est compréhensible par le chinois, par le grec, par l'italien.
Un langage universel, voilà.
Voilà.
C'est ça.
Et c'est ce que vous présentez au public dans cette tournée de spectacle. C'est un peu votre carnet à vous, transposé en musique, avec des musiques dites, peut-être pas des musiques nationales, mais des musiques issues ou qui illustrent les pays que vous avez visités.
Oui, comme je le dis d'emblée en introduction à mon spectacle, j'invite les gens à faire ce voyage autour du monde en musique et on visite des pays qui, au fil des ans, ont légué à l'histoire des compositeurs, des musiques, des artistes devenus immortels. Alors, effectivement, quand je visite un pays, c'est soit que je rends hommage à un artiste qui a vraiment marqué son pays, ou soit que j'interprète la musique de ce pays-là. Alors, ça donne place à beaucoup de choses.
Alors, permettez-nous de nous amener dans votre voyage. Vous nous amenez à quel endroit en premier lieu?
Alors, je vous amène en Italie. Et contrairement à beaucoup d'autres, vous savez que l'Italie est le troisième pays d'Europe le plus fréquenté par les touristes. Il accueille environ 52 millions de visiteurs par année. Et on n'a qu'à penser à Florence, qui a donné naissance à l'opéra, à Naples avec ses airs napolitains, à Rome et le Vatican, pour réaliser que l'Italie est un endroit prisé par les touristes. Et par contre, contrairement aux autres, je n'ai pas visité Rome encore, ni Florence, ni Venise, mais je suis allé à Herculanum et Pompéi, parce que j'étais sur un bateau de croisière et ces deux villes sont proches de la mer. Et puis, une a été ensevelie par la lave, et l'autre par la poussière.
Oui.
Alors, les deux. Alors, puis j'étais bien curieux de voir ça, donc je suis allé visiter ces deux endroits-là. Mais mon Dieu, qu'il me reste beaucoup de choses à visiter en Italie, et j'espère d'avoir l'occasion d'y retourner.
voyage est bien amorcé avec ce qu'on vient d'entendre de ces pièces musicales d'Italie. On pourrait poursuivre avec une personne que vous connaissez bien, qui d'ailleurs est présente dans les spectacles que vous donnez et qui a pour nom Carole Casa.
Voilà. Je l'ai découverte il y a plusieurs années par hasard. Elle chantait dans un restaurant pour gagner sa vie. Et puis, j'oubliais de manger ce qu'il y avait dans mon assiette parce que j'écoutais cette belle voix qui m'a séduit.
Une voix cristalline.
Oui, une voix un peu spéciale qui se situe un peu entre la musique populaire et la musique classique. Un peu comme Sarah Brightman le fait, ou même Nana Mouskouri. J'ai entendu dernièrement Nana Mouskouri chanter avec Corelli. Et puis, et elle avait cette voix typique là, qui était un peu entre les deux. Et moi, j'adore l'entendre chanter, alors je lui ai donné sa chance, voilà. Et puis, lorsque je fais, par exemple, le voyage en Italie dans mon spectacle, eh bien, on sait que l'Italie est née un genre musical qui est très apprécié des mélomanes, qui s'appelle l'opéra. Ah, donc, je fais un clin d'œil à l'opéra et je demande à Carole Casa d'interpréter un des plus beaux airs d'opéra qui a été composé par Giacomo Puccini. Et cet air d'opéra-là, c'est un aria, s'appelle O mio babbino caro. Et il a été interprété pour la première fois au Metropolitan Opera House à New York en 1918. Un 14 décembre 1918.
Presque 100 ans.
Bien oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment un air d'opéra magnifique.
Et littéralement, « O mio babbino caro » veut dire « O mon papa chéri ». Cette aria est chantée alors que les tensions dans la pièce, dans cet opéra, sont très, très grandes entre elle et ses futurs beaux-parents. Elles sont si fortes qu'elles pourraient conduire à sa séparation d'avec Rinuccio, l'homme qu'elle aime. Comme on le sait, à l'opéra, il y a toujours des fins ou des trames tragiques. Mais cet air constitue une respiration au lyrisme simple dans l'atmosphère de jalousie, d'hypocrisie et de double entente qui règne alors. Alors voici cet air célèbre italien chanté par Carole Casa.
Oh.
quelle belle voix que celle de Carole Casa.
Ah oui, c'est vraiment beau.
Il y a dans la musique italienne ce qu'on appelle la tarentelle.
Oui, effectivement. Tantôt, on en a entendu une lorsqu'on a écouté le petit pot-pourri.
Oui, qui était la dernière pièce.
C'est ça, la dernière air, c'était une tarentelle. Et vous savez, Armand, la tarentelle a été justement, a pris naissance en Italie au 17e siècle et on la jouait et on la dansait pour essayer de guérir des gens qui s'étaient fait mordre par une tarentule.
Et d'où le nom?
De tarentelle.
Voilà. Incroyable.
Oui, ça, les gens restent surpris d'apprendre
ça. Et c'est formidable parce que quand vous faites votre prestation devant le public, vous racontez toutes ces anecdotes que vous avez apprises, j'imagine, en voyageant de par le monde. Mm-hmm. Vous avez appris beaucoup, parce qu'on dit que les voyages forment la jeunesse, mais forment aussi le pianiste.
Effectivement.
On va quitter l'Italie, si vous le voulez bien. On s'en va pas tellement loin, un petit peu plus au nord. On se retrouve dans un pays qui est presque notre mentor, notre pays cousin, à tout le moins notre patrie mère. La France.
Ah, mon Dieu. J'ai eu l'occasion d'aller 3 fois à Paris et pendant l'une d'entre elles, j'ai eu l'honneur de jouer à la salle de l'UNESCO de Paris. J'étais avec Martin Deschamps, Nanette, Yves Duteil et moi. Nous avions
belle
chacun...
Belle brochette!
Merci. Nous avions 30 minutes chacun à faire. Évidemment, Yves Duteil faisait la conclusion du spectacle. Et puis, nous avons offert ce spectacle à Lyon aussi. Et à chaque fois que je vais à Paris, cette ville me parle par son histoire. Mon gérant a un appartement dans le premier arrondissement, à côté du Louvre. Alors, je sors de son appartement, je fais quelques pas, et puis là, il y a une espèce de boulangerie et puis une pâtisserie. Et là, je demande un chausson aux pommes. Et dans mon accent, on me reconnaît. Alors, les gens me disent « Ah, un cousin du Québec! » Alors, une gazette pour monsieur. Alors, un chausson aux pommes, là-bas, ils appellent ça une gazette.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est que vous trahissez que vous avez la dent sucrée.
Ah oui, effectivement, un peu trop. Il faut faire attention.
Il faut faire attention. Paraît-il que même votre public, parfois, vous garde de ce côté parce que vous l'avez déjà mentionné.
Oui, c'est ça.
Et on vous apporte des carrés de sucre à la crème ou...
Voilà, oui. Des gâteaux, des tartes, plein de trucs.
Mais c'est aussi ce qui est plaisant lorsqu'on voyage, c'est de découvrir des mets que parfois on ne connaît pas ou des desserts mm-hmm. qu'on ne connaît pas. Ah, oui. Chaque pays a sa culture et sa culture culinaire également.
Ses saveurs aussi.
Ses saveurs.
Les mets les plus, je dirais, les plus étrangers à moi ont été ceux que j'ai consommés en Inde. On m'a fait goûter à plein de choses là-bas. C'est le pays le plus loin que j'ai visité.
Alors, oublions l'Inde pour le moment. Oui, oui. Retournons tout de suite en France. Et la première, vous allez sûrement la reconnaître parce que ça se passe sous un ciel bleu.
Ah!
Thank you. On aura reconnu sans aucun doute sous le ciel bleu de Paris, et ça se terminait par Milord, qui a été une chanson interprétée par la grande
Môme, la Môme.
La Môme, Édith Piaf. Ces voyages, est-ce que vous ont permis à l'occasion de faire des découvertes au plan artistique? Parce qu'un pianiste accompagne souvent d'autres artistes, particulièrement des chanteurs ou des chanteuses. J'imagine qu'au fil de vos voyages, il vous a été possible de rencontrer des gens que vous ne connaissiez pas et qui, peut-être, ont semé en vous un germe de bonheur.
Parfois, beaucoup d'émotions. Je me rappelle une fois, j'étais allé visiter Montmartre. Et puis, sur la butte, je vois une artiste de rue avec un orgue de barbarie chanter Piaf. Et je suis parti à pleurer. Et là, elle fait une pièce, deux pièces, trois pièces. Et puis là, elle me regarde et me dit, « Est-ce que vous êtes artiste? » J'ai dit, « Oui, je viens du Québec. » Elle dit, à vous voir me regarder ainsi, elle dit, « Je l'ai deviné. » Mais je lui dis, « Madame, et je suis tellement désolé de ne pas me rappeler son nom. » Je lui dis, « Madame, vous êtes extraordinaire. » Et elle me dit, « J'ai gagné le premier prix d'artiste de rue de Paris. » Elle chantait comme Piaf, alors je savais que Piaf avait chanté là. Exactement. Elle était au même endroit, et puis elle chantait comme ça, sans micro, là, les chansons de Piaf. C'était, Armand, c'était tellement émouvant. Et j'ai acheté son petit CD que j'ai à la maison, mais j'ai oublié le nom, mais c'était... Ah oh oui, on fait des découvertes, effectivement.
D'autant que Piaf, comme vous le dites, elle a commencé dans la rue. C'était, on l'appelait la Môme, ce n'est pas inutilement qu'on l'a surnommé la Môme. Il y a eu la Môme, mais il y a eu aussi le grand Momo.
Oui.
Maurice Chevalier.
Exactement.
Alors, on va terminer cette première partie d'émission avec une chanson qu'il a refaite, qu'il avait enregistrée dans les années 40, mais un album qui a probablement été marquant dans la carrière de Maurice Chevalier. C'est après son passage aussi à Hollywood, parce qu'il a fait quelques films aux États-Unis. Il a fait un album en 1963, la stéréophonie venait d'arriver. Alors, l'enregistrement est très moderne, peut-on dire, et la chanson a pour titre « Elle ne peut pas être plus française », Paris, Tour Eiffel, Maurice Chevalier, pour vous, Richard Abel.
Lorsqu'on nous demande ce que c'est Paris, on répond toujours l'étoile, les Tuileries, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, les petites boutiques des quais de la Seine. D'autres plus sérieux disent sans hésiter, c'est la petite roquette ou bien c'est la santé. C'est les grands boulevards, Pigalle, l'Opéra, mais ne les croyez pas. Paris, mais c'est la Tour Eiffel avec sa pointe qui monte au ciel. Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, y'a pas de Paris sans Tour Eiffel. On la débine, on la charrie, pourtant partout ce n'est qu'un cri. Paris ne serait pas Paris sans elle, Paris mais c'est la Tour Eiffel. Un jour une jeune et belle américaine voulu voir Paris et les bords de la Seine. Elle visita les monuments, les musées, les grands magasins, les rues et les cafés. Mais voilà qu'un soir, elle rencontra l'amour. Et maintenant, quand on lui demande à son tour, quel est votre avis, miss, sur Paris? Franchement, elle dit en rougissant, Paris, mais c'est le Tour Eiffel avec son point qui monte au ciel. Le Tour de Pise, le Tour de Nesle, le Tour de Londres, oh, ils sont bien moins belles. On est toujours sourd avec elle de monter jusqu'au septième ciel. Paris serait pas Paris sans elle. Paris, mais c'est le Tour Eiffel, vous voyez, Paris, mais c'est la Tour Eiffel.